Bonjour, bonjour, c'est Anne Estelle, bienvenue dans le programme du jour 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 astuces pour gagner au moins une happy hour par semaine dans les tâches du quotidien. Alors, on va commencer par des choses qui vont vous faire réaliser qu'en fait, on peut gagner un petit peu de temps par-ci, par-là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps dans les tâches du quotidien, vous permettre de mieux les vivre et puis surtout d'être beaucoup plus à l'aise dedans et d'être beaucoup plus efficace, voilà, pour pouvoir vous dégager du temps. Alors, j'ai dit au moins une happy hour par semaine, ça peut être beaucoup plus, vous allez voir, mais je préfère rester, prudente parce que ça va vraiment dépendre de votre façon de gérer votre quotidien. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner plusieurs clés, 10 astuces pour gagner au moins une happy hour par semaine, mais ça peut être plus. Alors, avant de vous dévoiler des habitudes faciles à mettre en place, on va démarrer par quelque chose de pas très marrant. Et donc, on va entrer dans le quotidien, gagner du temps en cuisine, dans le ménage et dans le rangement. Le résultat à la fin de la semaine, ce ne sera peut-être pas extraordinaire, comme je vous le disais, mais ce sont autant d'habitudes qui vont vous faciliter la vie et vous faire passer ces heures de tâches ménagères récurrentes d'une manière beaucoup plus positive. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Alors, c'est bien connu, une même tâche, quand on ne veut pas la faire, qu'on la perçoit comme une corvée et qu'on la subit, elle paraît beaucoup plus difficile que lorsqu'on l'accepte et qu'on essaie de voir le positif à cette tâche. Pour expliquer ça, j'ai vraiment un exemple très concret. L'autre jour, je regardais la fabuleuse émission À l'état sauvage sur M6, où on suit un aventurier des temps modernes qui s'appelle Mike Horn. C'est vraiment le meilleur explorateur et aventurier au monde dans ce moment. Et il a plusieurs records de traversée, il a l'habitude de survivre dans tous les endroits hostiles de la planète, autant le désert que la jungle, que l'Antarctique, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a des compétences et une façon de vivre et de voir la vie qui est super intéressante et j'aime énormément le suivre. Et donc en fait, il emmène une célébrité avec lui pour lui faire découvrir la survie pendant à peu près 5 jours. Et Mike Horn, c'est vraiment une leçon de vie assez incroyable. Et dans un des épisodes, il emmène avec lui Matt Pokora. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste français, chanteur, danseur, etc., performeur. Il l'emmène avec lui dans la jungle au Sri Lanka. Et en fait, ils doivent marcher pendant des heures et des heures, monter des montagnes. Donc dans la jungle, c'est hyper difficile parce qu'il y a beaucoup de broussailles. La jungle, c'est une végétation qui est hyper luxuriante et qui est très oppressante. Et voilà, pour marcher, c'est pas comme faire une rando sur un sentier en France, quoi. Donc ils doivent monter les montagnes, ils doivent les descendre en rappel ou descendre des côtes de montagne. Ils doivent se nourrir avec ce qu'ils trouvent, etc. Donc Matt Pokora est également un danseur, un sportif, qui s'attendait à ce que ce soit dur, mais pas à ce point, parce qu'il avait accepté le challenge. Mais dès le début, en fait, il réalise que ça sera beaucoup plus dur que ce qu'il imaginait. Il fait super chaud, en plus chaud et humide, puisque c'est la jungle, donc c'est pas forcément facile. Et il a mal, il est épuisé, il a envie de vomir, parce qu'il n'a pas mangé, évidemment, on est en survie. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment que Mike Horn, il a tout aussi chaud, mais lui, il a une endurance supérieure de par cette vie d'aventurier, il a plus l'habitude de jeûner et tout ça. Mais c'est dur pour lui aussi, je veux dire, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Ça reste dur pour lui. Mais la différence, c'est vraiment l'état d'esprit. Et à un moment donné, Matt Pokora se plaint une fois de plus. En fait, il fait que râler, il fait que dire « je vais pas y arriver », il fait que dire « Mike Horn ralentit », il fait que dire « je vais vomir, j'en peux plus, c'est pas possible ». Et le premier jour, puis le deuxième jour, c'est pareil. Et il dit « mais il faut encore 3 jours, enfin j'ai envie d'abandonner, quoi ». Et donc, à un moment donné, il se plaint une fois de plus, c'est une fois de trop. Et Mike Horn va s'arrêter et lui dire qu'il peut continuer à se plaindre, mais que s'il râle, ça va être encore plus dur. Plus il va subir la randonnée, plus il va dépenser son énergie à geindre et plus il va s'épuiser. Que tout est dans sa tête. Mike Horn, il va lui dire, tu as le choix de continuer à te plaindre et à râler ou alors d'arrêter et de garder l'énergie que tu as pour marcher. Et en fait, on va voir le visage de Matt Pokora complètement changé parce qu'il psychologiquement, il vient de se prendre une baffe en fait. Et son regard, son attitude, tout va changer. Il va changer d'état d'esprit et il va réaliser, c'était vraiment un coup de pied dans la fourmilière, il va réaliser que Mike Horn a vraiment raison. Et que c'est à lui de changer son état d'esprit et de changer sa manière de vivre cette aventure. Et donc on ne va plus jamais l'entendre râler, mais plus du tout. Pourtant il va vivre encore plus de difficultés, mais il va le faire dans un nouvel état d'esprit, avec l'envie de se dépasser, l'envie d'apprendre, l'envie de devenir meilleur, l'envie de profiter de là où il est. Et en fait, il va profiter des moments de grâce, mais même les choses qui étaient déjà présentes avant, mais qu'il ne voyait pas, il va à ce moment-là les apprécier, alors qu'avant elles étaient là. mais ils ne les voyaient pas parce qu'ils étaient dans un état d'esprit super négatif. Alors, c'est un exemple un peu extrême, dans la jungle, etc., mais parfois la vie à la maison, avec le quotidien, des tâches, etc., on a l'impression d'escalader des montagnes, toujours les mêmes, d'avoir toujours toutes ces ronces qui viennent nous empêcher de faire un pas, etc. Et j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que vous pouvez vous aussi voir les tâches ménagères du quotidien différemment, avec un état d'esprit ouvert et positif. Et je vais un petit peu détailler ça, et après je vous détaillerai les 10 astuces pour gagner du temps, environ une heure par semaine, mais j'espère beaucoup plus pour vous. Alors, un état d'esprit positif face aux tâches ménagères. Voici quelques éléments qui vont pouvoir vous aider à voir les tâches quotidiennes qui sont rébarbatives, récurrentes et ennuyeuses, etc., avec un état d'esprit positif. Déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que chaque objectif atteint est une victoire. Alors, je le sais, quand on fait le ménage et que tout est crado une heure après, c'est super agaçant. Quand on range tout et que les enfants passent derrière, on a l'impression qu'une tornade a tout défait ce qu'on avait fait et qu'il faut tout recommencer. C'est plus qu'énervant. Et quand c'est ça plusieurs fois par jour, sur plein de domaines, on a l'impression de ne faire que des choses qui sont amenées à être redéfaites et devoir recommencer sans jamais vraiment profiter du résultat. Et voir l'aspect positif de ça, c'est pas facile. Mais si vous le faites, vous réalisez alors à quel point on atteint plein d'objectifs chaque jour. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, on voit qu'à la fin de la journée, tout est quasiment dans le même état que le matin. Parce qu'on n'arrive pas à voir tous les objectifs atteints en même temps. C'est rare dans une maison quand on a des enfants, etc. Et personne ne va les voir au fur et à mesure qu'on les fait. Et ça, c'est très frustrant. Mais nous, on le sait. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous vous concentriez sur le fait que vous savez que vous avez fait tant d'objectifs. Vous savez que ça, vous avez rangé. Vous savez que ça, vous avez fait le linge. Vous savez que ça, vous avez fait le repas. Vous savez que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et en fait, le fait de le savoir, on sait que ça participe au fait que tout ne s'écroule pas autour et que la maison reste un endroit accueillant malgré tout. Et donc, j'aimerais vraiment vous inviter à fêter chaque victoire, chaque objectif atteint, à vraiment prendre conscience, chaque fois que vous faites une chose dans la maison, à réaliser que c'est une bonne chose de faite. La deuxième chose, c'est que j'aimerais vous encourager à utiliser ce temps pour faire quelque chose de positif. Par exemple, ranger ou faire son ménage, c'est pour moi quelque chose de très apaisant et de ressourçant. Je sais que ça peut paraître complètement bizarre, mais quand je range physiquement les choses autour de moi, quand je nettoie, mes idées, elles s'ordonnent aussi dans mon esprit, tout devient beaucoup plus clair. J'ai parfois des idées d'articles ou de vidéos en faisant mon ménage, pour vous dire. J'ai parfois des solutions aussi à des problématiques de ma vie personnelle en faisant mon tri. On peut donc tous utiliser les temps de rangement pour laisser ces idées se remettre en ordre. On peut aussi utiliser certaines tâches qui ne mobilisent pas ou peu de concentration pour faire autre chose, comme écouter de la musique, ou un livre audio, ou même regarder un film. Moi, je regarde souvent des films en faisant à manger parce que j'aime pas trop faire à manger. Et du coup, quand ma fille, elle est occupée, qu'elle fait ses trucs, je sais que j'ai à peu près une heure pour m'occuper des châtaignes et puis les faire cuire et puis ensuite enlever la cosse, etc. C'est super long. Je vais me faire un film. On peut, par exemple, faire son repassage ou cuisiner devant un bon film aussi. On peut éplucher ses pommes de terre en écoutant un podcast qui va nous apprendre des choses ou qui nous fait du bien. On peut faire son ménage en musique et puis s'arrêter de temps en temps pour danser ou pour chanter. On peut aussi préparer le repas pendant que l'enfant fait des exercices à côté pendant qu'il fait ses devoirs. On peut aussi répondre à ses questions entre l'oignon haché et la casserole nettoyée, par exemple. C'est vraiment que quelques exemples, mais c'est pour vous montrer que parfois, on peut combiner l'utile, c'est-à-dire la tâche ménagère, à l'agréable. Ou parfois même, on peut combiner l'utile à l'utile. Souvent, quand je fais à manger et que Janaï est à côté, je ne vais pas regarder un film parce que c'est pas pour elle. Je vais écouter un podcast. J'écoute beaucoup de podcasts en préparant le repas. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut utiliser le temps de certaines activités rébarbatives et pas drôles pour faire quelque chose qui peut nous changer les idées et nous faire voir le positif et puis surtout nous faire du bien. La troisième chose, c'est que j'aimerais vous encourager à le faire avec le sourire, parce que le faire avec le sourire, c'est aller plus vite. En fait, comme dans l'exemple de Matt Pokora et de Mike Horn que je vous ai raconté juste avant, pendant leur randonnée, plus on fait la gueule face à une tâche, plus on va y passer du temps. Parce que quand on est dans un état d'esprit négatif, on est plus stressé, on est plus maladroit, donc on perd plus de temps, on râle, donc on se fatigue plus vite, on perd de l'énergie, et on pense à tout ce qu'on pourrait faire de mieux, et en fait, on fait moins bien ce qu'on est en train de faire. Alors l'idée, c'est de mettre nos idées noires dans une boîte imaginaire, on ferme la boîte à clé, on la range dans un coin, et on se focalise sur ce qu'on peut faire pendant l'activité, c'est-à-dire ce que je vous ai dit juste avant, sur les avantages d'avoir des happy hours, et puis ce qu'on fera après, Et puis, on peut se dire aussi que ce n'est que l'ascension de la montagne pour profiter du coucher de soleil vu de tout en haut une fois qu'on sera arrivé en haut. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à le vivre positivement parce que on le fait mieux quand on est positif. Alors maintenant, on va parler concrètement des 10 astuces pour gagner au moins une heure par semaine. Donc j'ai qu'une chose à vous dire avant de vous détailler ces astuces, c'est de les essayer, de les tester, de les mettre à l'épreuve et de retenir que celles qui vous font vraiment gagner du temps. Moi, je vous partage des astuces que j'ai testées toutes. Il y en a certaines que j'applique encore aujourd'hui, il y en a d'autres, je les ai laissées de côté. Mais c'est vraiment pour vous offrir un panel, un éventail, et vous choisissez ce qui vous arrange, ce que vous vous sentez prêt, ce que vous vous sentez prête à mettre en place, et puis essayez. Alors la première chose, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Tout doit être clair pour vous et pour tous ceux qui vivent sous le même toit que vous. Chaque chose utilisée doit être rangée à sa place. Donc, ce qui veut dire qu'il faut une place pour chaque chose. Quand quelque chose n'a pas de place attribuée, on a tendance à le poser n'importe où. Et ce n'importe où devient très vite du bazar. Donc, non seulement il faut attribuer une place à chaque chose chez vous, mais en plus prendre l'habitude de ranger chaque chose à sa place après l'utilisation. Et ça, même avec les petits bouts, on peut le mettre en place. Ils peuvent le comprendre. Dès que l'enfant sait tenir un objet dans sa main, il est capable de ranger. Parce qu'il est capable de prendre l'objet, donc il est capable de le prendre pour le remettre dans la boîte, par exemple, de vous aider à ranger. Et ça, c'est des petits réflexes, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place tout de suite. Pour exemple, quand Janaï avait 1 an, elle avait une caisse à jouer, et on rangeait tout dedans avant la sieste, et le soir, avant de se coucher. Et forcément, elle participait. J'ai jamais lâché le morceau, même si je rangeais presque tout, je lui laissais toujours 3 ou 4 objets à ranger, elle, dans sa caisse, pour qu'elle comprenne que c'était à son tour de faire, qu'elle devait participer, que c'était important. Donc, une fois l'habitude prise, elle rangeait tout elle-même. Et en grandissant, on met à disposition plusieurs boîtes. Et l'enfant sait quel jouet va dans quelle boîte. Il en est de même des jeux de société. Ils ont une place, des ustensiles de cuisine ou encore des livres. Enfin, tout dans la maison a un endroit qui lui est attribué. Tout doit avoir une place claire et précise. J'aimerais rajouter aussi un élément qui est super important, c'est qu'il faut qu'on puisse ranger les choses en un minimum de gestes. Parce que plus il y a d'étapes, par exemple, s'il faut monter sur une marche, enlever la boîte de devant, prendre celle de derrière, ranger les ciseaux dedans, remettre la boîte de devant, redescendre, etc. Ça fait beaucoup d'étapes et en général, on se dit « Ah, oh, je le ferai après ». Plus il y a d'étapes, moins on range. D'où l'importance de faire du tri pour ne garder que les choses qu'on utilise vraiment au quotidien et mettre en hauteur et dans les endroits un peu plus inaccessibles, les éléments qu'on sort très occasionnellement. Donc ce travail de tri et ce travail de rangement pourrait faire l'objet d'une formation à lui tout seul, tellement ça peut être long, fastidieux et que ça demande de la réflexion. Pour autant, on peut commencer dès maintenant avec les affaires des enfants pour que le rangement de ce qui est le plus souvent dérangé soit plus facile et plus accessible. Donc moi, je vous invite déjà à faire ça, vous occuper des rangements de votre enfant et lui permettre d'avoir des boîtes claires, des emplacements clairs et chaque chose doit avoir une place et après chaque utilisation, l'enfant doit ranger. Donc, comme je vous disais avec Janaï, c'était avant la sieste et le soir avant de se coucher. Mais plus l'enfant grandit, plus il sort un matériel, et il range ce matériel avant d'en ouvrir un autre. Par exemple, si Janaï, elle sort les Playmobil, si elle a terminé de jouer avec les Playmobil, qu'elle veut faire un puzzle, je lui demande de ranger ses Playmobil, surtout qu'en plus, en caravane, on a très peu de place au sol. Donc, elle est obligée pour faire de la place, quoi. La deuxième astuce, c'est que tout le monde participe. Je vais vous parler beaucoup plus en détail d'autonomie demain. Ça sera l'objectif de la journée de demain. Mais aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'il est important de partager les tâches et de déléguer. Et ça, ça nécessite d'accepter l'idée que ce ne sera pas fait pareil que nous. Personnellement, c'est juste pour vous donner un exemple, je ne me force à pas regarder mon homme quand il fait la vaisselle parce qu'il ne la fait pas du tout comme moi. Mais pendant qu'il l'a fait, moi je peux balayer. Et du coup, à deux, on a tout fait en un même laps de temps. Un autre exemple, quand on était en appartement, Janaï étendait les sous-vêtements après chaque lessive. Je lui avais montré comment faire, mais forcément, c'était pas identique, c'était pas vraiment accroché pareil. Et voilà, c'est pas grave. Tant que ça sèche, c'est pas grave. Dans tous les cas, tous ceux qui vivent dans une maison ont des droits, mais aussi des devoirs, et c'est normal de partager les tâches à hauteur des capacités de chacun. En fonction de l'âge, en fonction de qui fait quoi, en fonction des compétences et en fonction, je sais pas moi, si votre conjoint il est absent toute la journée, on va pas lui demander la même répartition des tâches ménagères que vous qui êtes tout le temps à la maison par exemple. Ça peut paraître logique. Voilà, donc il faut tenir compte de tout ça quoi. La troisième astuce, un peu chaque jour. L'autre jour, je discutais avec ma grand-mère qui était infirmière à temps plein et avec 4 enfants, avec un mari qui ne l'aidait pas du tout à la maison à l'époque. Aujourd'hui, c'est très très différent, mais à l'époque, c'était comme ça. Et c'était une époque où elle n'avait pas de machine à laver le linge. Enfin bref, elle me racontait comment elle faisait pour s'en sortir entre le travail, les enfants et la maison. Et elle me disait que chaque jour, elle avait une mission en rentrant du travail. Cette mission, elle était en plus de préparer le repas et d'aider les enfants aux devoirs, bien sûr. C'était par exemple laver la salle de bain. Le lendemain, c'était laver le linge ou repasser le linge ou encore faire le ménage dans le salon, etc. Elle me disait que c'était la seule façon qu'elle avait trouvée, le seul moyen pour ne pas se laisser déborder et avoir un petit peu de temps le dimanche pour faire autre chose. Donc le dimanche, elle ne travaillait pas. Et je sais que ma mère m'a dit que le dimanche, ma grand-mère faisait pas de repas sophistiqués, c'était des pâtes, justement pour avoir le dimanche de calme, quoi. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une époque où on a beaucoup d'aide. On a une machine à laver, parfois le sèche-linge, parfois un lave-vaisselle. Et quand on fait un peu chaque jour, c'est beaucoup moins dur parce que c'est moins long. Du coup, on met très facilement du temps de côté. Du coup, c'est super satisfaisant quand on arrive le week-end qu'on n'a rien à faire parce qu'on a tout dispatché un petit peu chaque jour. Vous pouvez donc faire une liste des tâches ménagères et estimer le temps que ça vous prend pour les faire. Et ensuite, quand vous aurez fait cette liste avec le temps, vous pouvez les dispatcher pendant la semaine. Par exemple, lorsque moi j'habitais en appartement, je passais ma mop poussière, qui est l'équivalent du balai ou de l'aspirateur, tous les soirs. J'en avais pour à peu près 10 minutes pour un appartement de 90 mètres carrés. Une fois tous les 15 jours, je rajoutais la mop pour laver le sol. C'était 10 minutes en plus. Donc c'était 10 minutes le soir et 20 minutes une fois tous les 15 jours, ou une fois par semaine si vraiment il n'avait plus et que c'était assez sale. Mais sinon, s'il n'avait pas plu, que le sol était vraiment pas crado, c'était une fois tous les 15 jours. J'avais pas besoin de laver le sol plus souvent, sauf par temps de pluie, je vous le dis, parce que quand je passais la mop poussière, ça ramassait déjà quasiment tout, quoi. Je lavais ma salle de bain 2 fois par semaine. Ça me prenait 10 minutes après ma douche, ce qui m'évitait de frotter le calcaire et de passer 30 minutes une fois par semaine. Pareil pour les WC. En 5 minutes, c'était fait 2 à 3 fois par semaine. Du coup, j'avais pas besoin de passer du temps à frotter pour enlever le calcaire à l'intérieur de la cuvette. Quoi d'autre? Je nettoyais ma plaque de cuisson une fois par jour, une fois que le repas était fait et que ça avait refroidi, parce que déjà c'était vite fait et puis en plus ça n'avait pas le temps de s'incruster, donc j'avais pas besoin de frotter et de galérer. Et après avoir fait la vaisselle, je nettoyais l'évier et le plan de travail. Donc au final, alors qu'avant je pouvais passer 3 ou 4 heures de ménage le samedi matin en dispatchant tout et en faisant beaucoup plus régulièrement, j'étais jamais dans un appartement crado avec la pression de devoir tout nettoyer à la fois, surtout si on a des invités, parce que moi j'avais souvent du passage à la maison. Et en plus de ça, c'était 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, et franchement, c'est pas énorme, quoi. Donc je faisais ça petit à petit. Donc je vous encourage vraiment à lister les tâches ménagères, mettre leur durée et voir comment vous pouvez les répartir sur la journée, sur la semaine. Quatrième astuce, je vous propose de faire les menus pour la semaine. Cette astuce, elle a plusieurs avantages. Déjà, c'est économique parce que vous faites en fonction de votre budget. Et ensuite, lorsque vous faites vos courses, vous vous limitez à votre liste. Donc non seulement pendant vos courses, ça va plus vite, vous gagnez du temps parce que vous savez où trouver chaque aliment, mais en plus, vous ne perdez pas de temps en rayon à vous demander si tel ingrédient va aller avec tel autre, etc. Donc vous gagnez du temps pendant les courses. Et ensuite, vous gagnez du temps pendant la préparation des repas. Puisque vous avez déjà réfléchi et fixé vos objectifs, vos recettes, il n'y a plus qu'à les suivre. Et ça va vite. Peut-être qu'au début, vous allez passer un peu de temps à faire vos menus et la liste des courses. Mais au fur et à mesure, ça va devenir automatique, c'est comme une nouvelle routine et les menus reviennent sur plusieurs semaines. Donc vous savez où piocher des idées quand vous êtes en panne ou en manque d'inspiration. Astuce numéro 5, choisissez des recettes qui nécessitent moins de 30 minutes en cuisine par repas. Et là, j'ai vraiment un truc super important à vous dire, c'est que la cuisine crue est excellente pour la santé et c'est ultra rapide à préparer. Si vous devez préparer les repas midi et soir, je vous encourage à préparer du cru à un des deux repas. Nous, c'est le midi et on mange du cuit le soir en général. Mais vous, si vous mangez plus le midi que le soir, inversez. Faites un repas plus consistant avec du chaud le midi et prévoyez du cru le soir. Si vous n'avez que les repas du soir à préparer, 3 repas crus par semaine, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que j'entends par cru? Ben, c'est des salades. Tomates basilic, tomates maïs, concombre menthe, chou chinois plus noix, chou carotte, endives, raisins secs avec, vous pouvez rajouter des œufs durs. C'est pas du cru, mais ça le fait aussi. Enfin, les possibilités, elles sont innombrables. Vous pouvez aussi opter, pour les tips. Vous savez, c'est des légumes qu'on coupe en bâtonnets, qu'on trempe dans des sauces. Donc, vous pouvez faire ça avec des concombres, avec des courgettes, avec du chou-fleur, avec des carottes, avec des tomates cerises, etc. Chez nous, c'est franchement comme ça qu'on fonctionne. Cru le midi et cuit le soir. Le midi, je passe donc moins de 15 minutes à préparer le repas. Et le soir, je limite la durée à 30 minutes. Souvent, c'est moins. Sauf si j'ai envie de faire des recettes en particulier, mais alors c'est pas subi, c'est moi qui choisis. Donc c'est ce qui fait que des fois je vais passer 1 heure en cuisine le soir, mais je ne le subis plus comme avant. Avant c'était vraiment quelque chose, j'aimais pas le faire. Aujourd'hui je vais le faire 1 à 2 fois par semaine de cuisiner un peu plus longuement parce que tous les autres repas ça va très vite. Par exemple, hier j'avais fait des haricots dorés dans du beurre. La veille j'avais fait une grosse omelette aux oignons. Parfois je fais de la viande en sauce avec du riz ou des pâtes, quoique les pâtes c'est vraiment peut-être 1 fois par semaine pour éviter le gluten. Sinon, des galettes de flocons d'avoine avec des courgettes râpées ou des tomates à la provençale. Enfin voilà, c'est vraiment quelques idées toutes simples et rapides. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Je vous invite à le faire, à limiter vos recherches en fonction du temps passé en cuisine. Vous pouvez taper recettes faciles et rapides, par exemple. Sauf si évidemment faire à manger c'est quelque chose qui vous fait plaisir, dans ce cas-là faites-vous plaisir. Peut-être que ça va vous demander un peu de temps maintenant de trouver des nouvelles recettes, de réaménager tout ça, mais c'est du temps de gagner pour après et surtout le fait de tester des nouvelles recettes, ça va vous procurer une nouvelle sensation positive. Ça va vous procurer une nouvelle joie, quelque chose de différent quand vous allez préparer à manger. Du coup, ça sera moins une corvée si vous n'aimez pas faire à manger. Astuce numéro 6. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a, là où je suis, il y a des travaux à côté. C'est un peu aléatoire, donc j'espère que ça couvrira pas ma voix. L'astuce numéro 6, pardon, c'est le fait de préparer vos repas à l'avance. Vous pouvez, lorsque vous faites un repas qui prend un peu plus de temps de cuisson, en profiter pour préparer un autre repas pour le lendemain. Par exemple, quand je fais mes châtaignes en ce moment, quand je suis en train de faire ce podcast, on est en automne, on a beaucoup de châtaignes et donc parfois on fait des repas que châtaignes parce qu'on aime trop ça. Et donc le temps de les faire, de les laver, de les couper, de les faire cuire et ensuite d'enlever les trucs, ça me prend du temps. Donc pendant qu'elles cuisent, pendant que je les écosse, je fais cuire autre chose. Je peux faire cuire une soupe, je peux faire... L'autre jour, j'avais fait quoi? J'avais fait revenir mes épinards, j'avais fait vite fait blanchir, revenir un petit peu. Et comme ça, ils étaient prêts, je les ai mis dans une boîte et le lendemain, c'était prêt pour les mélanger pour faire une omelette aux épinards. Voilà, donc vous pouvez préparer un autre repas en même temps qu'un repas qui est un peu long et qui demande plus de temps de cuisson. La majorité des plats se conservent évidemment au frigo 2 ou 3 jours. Vous pouvez aussi congeler certains plats. Par exemple, si vous faites des lasagnes, vous pouvez préparer ce repas en double et congeler une partie pour un soir où vous n'avez pas le temps de cuisiner. Quand vous faites un plat en sauce, vous pouvez faire la recette en plus grande quantité pour nourrir votre famille sur 2 repas. C'était ce que ma mère, elle faisait lorsque j'étais enfant. Elle cuisinait, donc nous on était 8 à manger à table. Elle cuisinait toujours en plus grand pour qu'il y ait des restes le soir. Le soir, on mangeait les restes du repas de midi. Donc vous pouvez faire ça, pour vos repas en sauce, vous pouvez faire ça pour vos gratins, etc. Et soit congeler, soit mettre au frigo si jamais vous le ressortez le lendemain ou si vous le ressortez 4 ou 5 jours après, ben voilà, vaut mieux congeler. Ça c'est des astuces, moi je vous en parle parce que je les ai faites pendant des années. Aujourd'hui je ne peux plus, j'ai plus de congèle dans notre caravane et puis le frigo est tout petit. Donc je peux préparer des petites choses à l'avance, mettre, mais je ne peux pas stocker en grande quantité. 7e astuce, faire vos courses sur Internet. Alors ça, c'est une astuce que moi, j'ai fait quand je travaillais à l'extérieur. Parce qu'il y a eu une période jusqu'au 1 an de Janae. Je partais à 8h le matin et je rentrais à 19h30. Et ça, du lundi au vendredi. Donc du coup, je faisais ma liste sur Internet que je pouvais copier d'une semaine à l'autre, la modifier en fonction. Ensuite, j'allais au Drive, je récupérais mes courses. C'était vraiment super pratique, ça prenait pas de temps. Depuis que je suis à la maison, je ne le fais plus parce que j'aime aller au magasin bio, qui évidemment ne fait pas du drive. Et puis parce que je ne perds pas de temps dans les rayons, en fait, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et puis maintenant que nous vivons en caravane, j'ai plus assez d'espace pour stocker de la nourriture pour une semaine. Donc je fais des courses à peu près, je fais une grosse course pour la semaine. Mais des fois, je suis obligée d'y retourner pour compléter les fruits, etc. Et j'aime bien choisir les fruits, les légumes, tout ça. Donc ça reste, le drive, une bonne option pour gagner du temps si vous travaillez à l'extérieur, si vous n'aimez pas aller en magasin et tout ça. Astuce numéro 8, faire moins de lessive. Si vous prenez une même famille avec 2 parents et 1 enfant, vous n'aurez pas du tout le même nombre de lessives. Chez nous, c'était 2 par semaine. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'en caravane, on regroupe toutes les lessives pour aller au lavomatique tous les 15 jours. Mais j'ai des amis, c'était au moins 1 lessive par jour. Pourtant, ils étaient 2 adultes et 1 enfant. C'est vraiment aléatoire et c'est quelque chose de très personnel en fait le nombre de lessives. Pourquoi? Parce que certaines personnes lavent leurs vêtements après les avoir portés une seule fois. Parce que certaines personnes travaillent et font un travail en extérieur ou quelque chose qui fait qu'ils se salissent facilement, donc il faut pouvoir laver les habits. Parce que certaines personnes vont changer les serviettes de bain tous les deux jours, les draps toutes les semaines. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que chacun fait comme il le sent, évidemment, mais sachez qu'on peut limiter les lessives. Et on peut changer ses serviettes, par exemple, une fois par semaine, ses draps tous les 15 jours, voire même une fois par mois. On peut aussi porter ses habits plusieurs jours d'affilée s'ils ne sentent pas mauvais, s'ils ne sont pas tachés. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir où sont vos priorités ou plutôt ce sur quoi vous êtes prêt à réduire ou pas. C'est quelque chose de très personnel, je le répète. Personne ne peut vous dire ce qui est le mieux, si c'est mieux de faire 2 machines par semaine ou 7 machines par semaine. Mais c'est un fait que faire 2 machines par semaine, ça demande beaucoup moins de temps que d'en faire 6 ou 7, tout simplement parce que pour chaque machine, il faut trier le linge, il faut lancer la machine, il faut étendre le linge, il faut le ranger. Et en plus, si on a le repassage, alors là... Et l'astuce numéro 9, justement, supprimer le repassage. C'est rigolo parce que je suis étonnée chaque fois que quelqu'un me dit qu'il fait du repassage, tellement ça fait des années que j'ai supprimé cette tâche de mon quotidien. Alors bien sûr, c'est possible parce que Steph ne porte pas de chemise, ni moi, et que celles qu'il a, les rares chemises qu'il a, elles ne se froissent pas. C'est fait exprès pour ne pas avoir à passer du temps en repassage. C'est aussi possible parce que je choisis des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Et enfin, c'est possible parce que nous n'avons pas de problème de peau qui nécessite de repasser les vêtements. Donc, j'ai appris à étendre le linge de manière à ne pas faire de plis pour qu'une fois sec, en fait, j'ai plus qu'à le plier et à le ranger. Si vous ne souhaitez pas supprimer entièrement le repassage, soyez sûr vraiment que la majorité du linge peut s'en passer et que ça va vous faire un bien fou. Donc, je vous encourage à essayer. Astuce numéro 10, la toilette de chat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre peau, normalement, n'a pas besoin d'être douchée chaque jour. Alors bien sûr, quand il fait chaud, qu'on transpire, qu'on a fait des travaux ou qu'on habite dans un endroit très pollué, la question ne se pose pas trop. Mais en France, durant une grande partie de l'année où il ne fait pas trop chaud, on peut se contenter d'une douche tous les deux jours et faire ce qu'on appelle une toilette de chat l'autre jour. La toilette de chat, c'est une toilette aux gants. En fait, on va se nettoyer, mais sans aller dans la douche, sans se mouiller en entier. On se nettoie aux gants, on peut se rincer et on se sèche. On est propre, mais ça prend beaucoup moins de temps et on gaspille aussi beaucoup moins d'eau. On gagne ainsi du temps pour soi, mais aussi pour les toilettes des enfants. Et on peut le faire comme ça, on peut aussi le faire de temps en temps, surtout si l'enfant n'a pas transpiré, qu'il fait vraiment, il a fait froid, etc. On peut ne nettoyer que les zones sensibles, c'est-à-dire le visage, le cou, les mains, et puis les aisselles, l'entrejambe, les fesses et les pieds. Voilà, c'est une toilette de chat accélérée. Voilà, il en est de même aussi pour les cheveux. Faut savoir que nous, avec Janaï, je lui lave les cheveux tous les 12 jours, parfois 15 jours. Des fois, c'est tous les 10 jours, ça dépend, mais voilà. En fait, ils n'ont jamais été aussi brillants et aussi beaux depuis que je les lave beaucoup moins. Bien sûr, comme pour se laver le corps, quand elle a transpiré parce qu'elle a couru partout, etc. Quand elle a fait des jeux dans la nature, qu'elle s'est salie, bah, je vais les laver plus souvent, comme quand elle fait de l'équitation et qu'elle porte une bombe qui lui a été prêtée, ben, je ne vais pas prendre le risque qu'elle attrape des poux, je vais lui laver les cheveux quand elle revient de son cours d'équitation. Mais sinon, parfois pendant 15 jours, ben, ses cheveux sentent bon, ils sont propres, donc pourquoi les laver? Là aussi, c'est du temps de gagner. Pour moi qui les lui lave, mais aussi pour elle qui traverse une phase où elle n'aime pas du tout prendre sa douche. Quand on a les cheveux courts, ben forcément ils sont plus gras très vite, donc ça s'applique pas trop. Et puis quand on habite en ville avec la pollution, on a aussi besoin de les laver plus souvent. Mais l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'on peut vraiment réduire beaucoup de choses du quotidien quand on commence simplement à y réfléchir, à en parler. Alors pour récapituler ce premier jour, voici la liste des 10 objectifs que j'ai détaillés avec vous. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de choisir au moins 5 objectifs dans cette liste et de les tester pendant toute cette semaine. Alors, objectif numéro 1, donner une place claire à chaque chose dans l'univers des enfants. Vous pourrez faire le reste de la maison au fur et à mesure si ça vous dit, mais l'objectif d'aujourd'hui, de cette semaine, ce sont les affaires des enfants. Donc, donner une place claire à chaque chose dans l'univers des enfants. Objectif numéro 2, faire la liste des tâches que les autres peuvent faire et commencer à les répartir. Objectif numéro 3, faire la liste de mes tâches et leur durée et voir comment je peux les répartir sur la semaine pour faire un peu chaque jour. Objectif numéro 4, faire tous les menus de la semaine. Objectif numéro 5, trouver 3 nouvelles recettes de moins de 30 minutes. Vous pouvez même en trouver de moins de 20, voire 15 minutes. Et vous testerez aussi 2 repas crus. Chiche ! Objectif numéro 6, préparer un repas en double. Objectif numéro 7, faites vos courses au drive. Objectif numéro 8, comptez le nombre de lessives que vous faites actuellement chaque semaine. Faites-en une en moins Cela ne veut pas dire de la faire la semaine prochaine pour attraper, hein, mais d'avoir moins de linge à laver. Objectif numéro 9, plier et ranger votre linge sans l'avoir repassé, évidemment, sauf les chemises ou les pantalons autres qu'en jean. Vous savez, les pantalons qui doivent avoir le pli devant pour bien tomber. Vous voyez quand même la différence entre ce qui peut être repassé ou pas repassé. Et du coup, voyez si, si ça vous choque une fois que vous portez des habits non repassés, si vous n'avez pas l'habitude. Alternez, objectif numéro 10, alternez un jour une douche, un jour la toilette de chat et montrez aux enfants comment faire pareil. Si vous appliquez au moins 5 de ces idées, j'ai estimé que vous allez gagner au moins une happy hour cette semaine. Cette estimation est très basse, je suis sûre que vous allez gagner plus, mais je préfère vous donner un objectif réalisable pour que vous soyez encore plus fiers de vous si vous arrivez à mettre plus de côté rien que par ces idées cette semaine. Et comme c'est beaucoup de boulot, je vous laisse vous mettre au travail et je vous retrouve demain. Et je vous laisse avec une jolie citation que j'ai trouvée qui dit « J'enfile un sourire et j'arrive ».